Nous vous donnons maintenant lecture de son dernier message posté le 17 décembre 2025. Il est intitulé « Quand il y a de fortes pluies, on voit des cadavres sortir de terre ».
Cela fait plus de 2 semaines que je n'ai pas donné de nouvelles. La dernière période a été difficile pour ma famille et moi, et surtout pour mon épouse Saba. Saba a perdu son frère, Mohamed. Il avait 26 ans. Il était marié, père d'un enfant, et sa femme en attend un deuxième, dans 6 mois. Le 22 novembre, les Israéliens ont violé une nouvelle fois le cessez-le-feu. Mohamed faisait partie des victimes dites collatérales. Comme toute la famille de Saba, lui et son épouse avaient dû quitter leur maison du quartier de Shajaya, qui se trouve maintenant dans la zone jaune, interdite aux Palestiniens, et qui s'étend sur plus de la moitié de la bande de Gaza. La mère et les frères de Mohamed vivent toujours sous une tente. Ce jour-là, Mohamed était parti rendre visite à des amis vers le rond-point de Shajaya. Un immeuble a été bombardé au moment où il passait devant. Mohamed a été grièvement blessé. Transporté à l'hôpital, il est resté 1 semaine dans le coma, avant de partir reposer en paix. Saba a perdu de nombreux membres de sa famille dans cette guerre, dont son père, qui n'a pas été tué directement mais qui est mort de tristesse, ne supportant plus cette vie d'humiliation. Des oncles et plusieurs de ses cousins ont été tués. Saba est une femme forte, mais là, pour la première fois, je l'ai vue craquer. Nous avons vécu ensemble des moments très difficiles. Plus d'une fois, nous avons cru que notre mort était imminente, quand nous avons été encerclés par les chars israéliens, ou quand, au début de la guerre, en novembre 2023, nous avons quitté notre appartement en échappant de peu aux tirs des snipers et des drones quadricoptères. Le même jour, le père d'un ami très proche, Hassan, est entré à l'hôpital. Hassan, que j'appelle de son diminutif Hassoun, est comme un petit frère pour moi. Son père avait besoin d'une opération sur une artère, une intervention relativement facile normalement. Mais le chirurgien n'avait pas le matériel nécessaire. Il nous a dit franchement, « on va bricoler ». Il a vraiment employé ce mot. Il fallait réparer les tuyaux comme on pouvait. C'était presque un travail de plombier. Mais le père de Hassoun n'a pas survécu. Il est mort parce que l'armée israélienne bloque le matériel médical et les médicaments. Pour enterrer le père de Hassoun, là aussi il a fallu improviser. On a trouvé un espace entre les tombes, dans un ancien cimetière à côté de l'hôpital Baptiste, Alma Madani. Il a fallu payer la place environ 200 euros. D'habitude, on enterre le défunt à même la terre, puis on scelle la tombe avec du béton ou du carrelage. Mais les matériaux de construction sont interdits à Gaza. Alors nous avons bricolé une solution, couvrir la tombe avec une porte en acier, rouge, achetée au propriétaire d'une maison détruite. Les gens essaient de vendre ce qu'il reste de leurs habitations. Voilà la tristesse que ma famille a vécue pendant ces 2 dernières semaines. À Gaza, tout est tristesse. On est tué par les bombardements, par le manque de moyens médicaux, par l'humiliation, par manque de tout. Les dernières intempéries ont fait plus de 15 morts, ainsi que 3 bébés morts de froid. Il n'y a pas de médicaments, pas de vêtements d'hiver pour les enfants. 15 personnes sont mortes, ensevelies sous leurs maisons qui se sont écroulées à cause des pluies. Refusant de vivre sous la tente, ces gens n'avaient pas voulu quitter leurs habitations, partiellement détruites par les bombardements. Les intempéries ont fait le reste. 13 maisons se sont effondrées jusqu'à présent. La défense civile n'a pas les moyens de dégager ceux qui se trouvent sous les décombres. Voilà l'art de tuer à Gaza. On meurt de différentes manières possibles. Enterré vivant, bombardé, de froid, de faim, de maladie, du manque de matériel médical le plus élémentaire. Je l'ai déjà dit, il faut inventer des mots nouveaux pour décrire cette réalité. Tout un peuple est en train d'être tué par l'occupant, mais aussi ses sites archéologiques, sa géographie, son histoire, ses systèmes de santé et d'enseignement, son écosystème en général, ses terres agricoles. C'est ce que j'ai appelé le gazacide. Nous étions dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous sommes dans une cage à ciel ouvert, parce que la surface de Gaza a diminué d'un peu plus de la moitié. Plus de 2 millions de personnes sont concentrées dans ce réduit. On dit que l'aide humanitaire peut entrer. C'est vrai. Mais au compte-gouttes. Selon l'ONU, il n'entre que 30% du strict minimum. Il n'y a pas de médicaments, pas de quoi fabriquer des tentes, pas de vêtements pour les enfants, pas de matelas, pas de couverture. C'est invivable. Il n'y a pas un cœur à Gaza qui ne soit empli de tristesse, de chagrin, de souffrance, de fatigue. Ils ont brisé le cœur des enfants. Combien de milliers d'orphelins? Combien de veuves? Combien de mères et de pères qui ont perdu leurs enfants? La tristesse nous envahit. Chaque jour est un jour de tristesse chargé d'humiliation, passé à chercher de quoi manger, de quoi boire, à faire la queue pour un jerrycan d'eau, une casserole de riz ou de lentilles, dans le meilleur des cas. Des jours passés à voir mourir les siens. Imaginez une mère qui voit son fils mourir devant ses yeux parce que son cancer ne peut être traité ou qu'il ne peut être dialysé. Beaucoup de maladies graves ne sont plus soignées. Plus de 40 000 personnes devraient être hospitalisées à l'étranger, selon l'ONU. Regardez comme cela brise les cœurs des gens, des mamans, des maris, des épouses, des enfants et des parents. Tout cela dans le but de rendre la vie à Gaza insupportable. Le ministre de la guerre israélien a évoqué récemment une solution. L'ouverture du terminal de Rafah, la frontière avec l'Égypte, mais dans un seul sens, celui de la sortie. Pour que les gens sortent et ne reviennent pas. C'est la déportation, mais avec un euphémisme. Le départ volontaire, humanitaire, pour se faire soigner, étudier, travailler. Ailleurs. Des milliers de personnes ne sont pas concernées par cette solution. Ceux qui sont sous les décombres. Ceux qui ont été exécutés sommairement et qui ont été enterrés dans des fosses communes. Ceux qui ont disparu, enlevés par l'armée israélienne, et dont on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Nous sommes en 2025 et 2 millions de personnes vivent sous des tentes. Les enfants ne trouvent pas à manger, ni à s'habiller, ni à aller à l'école parce qu'il n'y a plus d'école. Nous sommes en 2025 et il n'y a pas de médicaments, même pour les maladies saisonnières. Une population entière est en train de chercher à manger et à boire. La stratégie israélienne, c'est d'anéantir la population de Gaza et d'abord de détruire les cœurs.
C'était le journal de bord de Gaza de Rami Abou Djamou. Plus d'infos sur le journal en ligne orient21.info. Vous pouvez aussi acheter son livre dans toutes les bonnes librairies françaises. Il est intitulé « Journal de bord de Gaza » et est publié par les éditions Libertalia.